Bienvenue à la balado-diffusion sur Radio Créon du colloque sur le rapport Taylor-Bouchard qui s'est tenu à Montréal en mai 2009. Welcome to the audio podcast on Radio Créon of the conference on the Bouchard-Taylor report that took place in Montreal in May 2009.
Vous allez voir ça, vous allez nous aimer.
Votre présentation sera suivie d'un commentaire de Manuel Toscano Mendez.
Je crois que la première chose que je devrais faire, ça sera faire une demande d'accommodement plutôt indulgent pour mon français que raisonnable. Mais j'espère que sera assez compréhensible en tout cas. Je dois vous avouer que quand je suis arrivé ici à Montréal, je ne connaissais pas les rapports Bouchard-Taylor. Je remercie Daniel Weinstock pour m'avoir invité à lire. C'est une lecture très intéressante. Je pensais peut-être, je ne suis pas, bien que je lis les journaux tous les jours, bon, peut-être je ne suis pas, mais j'ai tapé sur les Google, sur les journaux Le País, aucune référence, sauf dans un petit blog, un commentaire dans un blog secondaire au rapport Bouchard-Taylor. Et je dois dire que c'est à notre perte. Parce que vraiment, je trouve que c'est un document assez intéressant pour des débats qui sont maintenant gérés en Espagne. Des débats qui sont, je dirais, en utilisant les sous-titres des livres de Jean Bobéro, que l'expérience québécoise des accommodements raisonnables et la réflexion qui a mené la commission pourra éclairer ou susciter une réflexion assez intéressante sur l'avenir, pas seulement de l'Espagne, de la France, mais de l'Espagne. On doit penser que, par exemple, on a ouvert, depuis l'arrivée de Rodríguez Zapatero au gouvernement, on a ouvert un débat sur la laïcité en Espagne. Et une des choses, justement, qui est intéressante, et c'est pour ça que m'intéresse beaucoup la présentation qu'a fait Jean Bobéro, une des choses sur lesquelles on discute, c'est sur le modèle constitutionnel espagnol de régler les rapports entre les églises et l'État. C'est un modèle laïque ou non? Je crois, par exemple, que la réflexion finale de Jean Bobéro, c'est assez intéressant. C'est-à-dire, besoin de, on dit de, je sais pas si on peut dire, de construire, de s'entangler. Les concepts blocs comme laïcité, justement pour faire l'application au modèle espagnol. Une des questions, la question plutôt plus importante dans les dernières années, c'est la question qu'on posait si c'est vraiment un modèle laïque, le modèle espagnol. Mais le problème, c'est qu'en Espagne, tout le monde pense, quand on pense à un modèle laïque, tout le monde a la vision de la France. Mais je dirais, suivant les mots de Jean Bobéro, pas le modèle de la France dans son complexité et dans son parcours historique, sinon un modèle spécialement dogmatique de ce modèle. Mais d'autre part, le rapport Bouchard-Taylor n'est pas seulement intéressant pour la question, pour le débat sur la laïcité en Espagne. C'est aussi intéressant pour une autre question que c'est... autant plus important. L'Espagne est passée depuis l'année 2000, dans laquelle il avait autour moins d'un million d'étrangers, une bonne partie d'eux, il était des résidents européens d'autres pays européens. Il est passé en 2008 à avoir 100 millions de résidents étrangers, dont la plupart viennent d'autres continents. dans la diversité, il y avait vraiment une vague migratoire qui a commencé sur les années 2002-2003 et vraiment a changé les paysages de la société espagnole. Et justement, une des choses qui est intéressante pour sa question, c'est qu'on a un débat sur quel est le modèle pour gérer ces nouvelles diversités culturelles. Une des questions, un des enjeux plus importants pour l'Espagne dans le futur, ça sera de définir justement quel est le modèle pour gérer cette diversité. Et je trouve que dans ce cas, il y a aussi une opposition, je dirais, il y a aussi une opposition entre le multiculturalisme, que ce n'est pas un très bon mot, et l'anticulturalisme. En Espagne, en général, dans le discours public des institutions, on parle plutôt d'interculturalisme. Et je dois dire que je dois ajouter une chose. À l'ère de penser sur ces différentes questions, surtout comment gérer la diversité, etc., on ne doit pas penser simplement dans les cadres. Maintenant, on ne peut penser seulement dans les cadres nationaux. Quelle est la politique de l'Espagne, quelle est la politique de la France, de l'Allemagne. Maintenant, il faut voir qu'il faut encadrer justement cette expérience nationale dans les cadres plus larges de l'Union européenne. Et l'Union européenne a une politique très active, justement, de lutte contre la discrimination et de protection des droits fondamentaux. Et justement, dans les scènes de cette nouvelle politique, c'est une politique, si on regarde le website of the European Union, là on dit c'est la plus ambitieuse politique pour l'égalité de tout le monde, c'est de la rhétorique politique, mais on trouve des matériels et des matériels très intéressants, justement. Et la réflexion des rapports Bouchard-Taylor aussi, les accommodements raisonnables, peut être une façon très intéressante, justement, pour voir comment on peut utiliser cet matériel. C'est-à-dire, dans la législation européenne, qui est née de deux directives de 2000, dans ces directives, on parle d'aménagement raisonnable. Mais aménagement raisonnable pour les personnes handicapées et dans les milieux de l'emploi. Mais en même temps, cette politique est définie par des motifs de discrimination plus larges, c'est-à-dire il y a la possibilité d'élargir l'application du concept d'aménagement raisonnable à autres motifs de discrimination pour raison d'ethnicité, de religion et de conviction, on dit expressément, de sexe, etc. Mais en plus, il y a une autre chose. Si on contemple cette législation dans son parcours historique, dans une perspective historique, on voit que l'accent, et ça vient de la Cour de justice de la communauté européenne, et vient de régler les questions entre les hommes et les femmes, surtout dans les milieux, ce qui a égard à l'emploi et les conditions de travail. Mais on peut élargir justement ces cadres pour voir que la question décisive, c'est justement la lutte, pas seulement contre les formes de discrimination directe, mais aussi contre les formes de discrimination indirecte. C'est-à-dire, cette norme ou pratique apparemment neutre, mais qui porte un désavantage à quelques personnes. Donc, on a exactement toutes les données, justement, pour mettre en place quelque chose comme les accommodements raisonnables, dans le sens qu'on parle justement au Québec. Et c'est pour ça que je crois qu'il faudra, ça sera une chose intéressante de connaître justement l'expérience québécoise des accommodements raisonnables. Je reviens tout de suite à l'exposition de Jean Bovéron, parce que j'ai trouvé, c'est assez riche, je trouve assez difficile de commenter, il y a beaucoup de choses, mais il y a une chose que je ne résiste pas. Il y a quelque chose à parler surtout de contenu, des rapports, mais je crois qu'on peut profiter de la présence de M. Taylor ici et la participation de Jean Bobéro à la commission Estas et son connaissance de du rapport pour poser une question, pas seulement sur les contenus, les conclusions des commissions, sinon quels sont les enjeux éthiques d'une commission, quels sont les problèmes d'une commission comme la commission rapport Bouchard-Taylor, comme Bouchard-Taylor et la commission Stasi. C'est-à-dire, d'une part, on pense que... pourquoi simplement ne faire une commission parlementaire et demander des rapports des experts? On a besoin de prendre du recul, disons, de retirer certaines questions de la pression médiatique, de la lutte partisane. Mais d'autre part, on retrouve que ces commissions, dans ce cas, le livre de Jean Bobéro, c'est très éclairant sur le rôle qu'a joué la presse, les contraintes. Mais je voudrais demander à Jean Bobéro, la commission, cependant, est aussi soumise à toute classe de contraintes de la presse, des pouvoirs politiques, c'est-à-dire les politiques, avant de retirer l'affaire, il veut déterminer quelles sont les conclusions. Et dans ce cas, je dois dire que, par exemple, je trouve assez courageux la position de Jean Bobéro. C'est pas difficile, c'est pas facile. C'est pas facile, par exemple, pour moi-même, en commission, justement, c'est l'unique personne qui ne vote pas pour une conclusion unanime, surtout quand ces conclusions sont, disons, espérées par les personnels politiques. Il y a des questions éthiques. Disons qu'on va voir avec quel est le rôle d'une commission et des intellectuels qui font partie de la commission. Aussi, quel est le dessin même de la commission. Et une dernière chose. Bon, il y a beaucoup de choses, mais mon temps est presque, je crois que c'est fini. Il y a une dernière chose sur la laïcité bloquée. Une autre question que je voudrais poser à Jean Bobéro. La raison de ce blocage de la laïcité en France, c'est justement pour cette asymétrie entre ces aspects plus souples ou ces aspects plus rigides, ou la raison, c'est justement que... la lourdeur d'un héritage jacobin et d'une concession républicaine dans laquelle on pense que la mission de l'État, on pense simplement entre l'État et les citoyens, ces concessions républicaines, sans association intermoyenne, sans groupe, sans communauté d'appartenance, dont le rôle de l'État sera assurer la autodétermination, l'émancipation des citoyens. Merci.
Merci beaucoup, Manuel. Et Jean Bobéro, vous avez un droit de réplique, évidemment.
Oui. Alors, je vais répondre rapidement pour qu'on puisse passer à la discussion générale. D'abord, sur la laïcité. Pourquoi la laïcité en France, par certains côtés, est une laïcité bloquée, à part justement ces éléments un peu répressifs, soit face aux sectes, face à certains aspects de l'islam. Je crois que la spécificité de la laïcité française, et par rapport à d'autres laïcités, notamment la laïcité québécoise, c'est que elle a été explicite et elle a été un enjeu explicite de l'identité nationale. Depuis le 19e siècle, il y a deux conceptions de l'identité nationale en France qui se sont combattues. La conception de la France nation catholique, fille aînée de l'Église, depuis la conversion de Clovis, la France séculaire et... sans jeu de mots, la France séculière issue de la Révolution française, la France sécularisée, disons, entre guillemets, issue de la Révolution française, la France sans dimension religieuse, donc la France laïque au sens, effectivement, d'un enjeu social. Et donc, deux tentatives de religion civile. Une tentative où le catholicisme jouerait un rôle de religion civile et une tentative de religion civile républicaine. Mais justement, ça ne pouvait pas coller puisqu'il y avait deux religions civiles concurrentes et qu'une religion civile doit être quasi consensuelle. Et cette impossibilité d'une religion civile soit catholique, soit républicaine a abouti à ce qui, pour moi, est un petit miracle, entre guillemets, qui est la loi de 1905, qui est une laïcité qui tourne le dos à la religion civile. Et bon, si j'avais le temps, évidemment, mais je l'ai fait ailleurs, je montrerai pourquoi. Bon. Mais maintenant qu'il y a d'un côté, effectivement, cette émigration avec cette seconde génération qui s'implante et qui est là définitivement. La crise de l'État-nation face à la construction de l'Europe, à la mondialisation, peut-être pas la crise, mais disons les mutations de l'État-nation. Et puis, bon, ce que j'appelle cette sortie sociale du projet des Lumières, dont on ne voit pas bien encore les contours, etc., c'est le moment où les deux religions civiles peuvent coïncider, peuvent se regrouper et finalement créer une identité nationale laïco-chrétienne face à ces craintes, ces doutes, ces anxiétés, etc., ces menaces ressenties, etc. Bon. Et donc, à mon avis, c'est pour ça que la laïcité se trouve bloquée. Et puis, à cela, s'adjoint un facteur conjoncturel. Si la laïcité, disons, a gagné la guerre de Deux France, elle a perdu la dernière bataille en 1984, en n'arrivant pas à imposer un service unique de l'éducation nationale, laïque, souple au demeurant, mais que les laïcs ont voulu quand même essayer de rigidifier un peu, et ça a été l'échec. Bon. Donc, elle a perdu la dernière bataille et les politiques ont retenu qu'elle avait perdu la dernière bataille et donc qu'il valait mieux pas s'affronter avec l'Église catholique dans ce pays. Bon. Donc je crois que c'est pour ça que la laïcité en France est bloquée sur un certain nombre de problèmes et notamment des problèmes de bioéthique et des problèmes de mœurs depuis le Pax. Le Pax a été la dernière avancée. Bon. Maintenant, peut-être que c'est provisoire et qu'il y aura d'autres avancées, mais pour le moment, c'est un constat. Bon. Alors, sur la commission, c'est vrai que la commission est soumise à des contraintes, presse, pouvoir politique, mais je dirais la contrainte la plus importante est une contrainte idéologique. Bon. Alors, il est 4h20, donc je vais présenter les choses en essayant de vous faire sourire. Mais en même temps, c'est sérieux, c'est relativement sérieux. Le sourire, c'est l'auto-interprétation que je fais de moi-même. Bon. Mais la question est sérieuse. L'argument décisif qui a été donné à la commission Stasi et que vous avez bien pointé, c'était de dire si vous votez pas la loi, vous êtes contre l'égalité homme-femme. Bon. Hein? Et donc, si je votais pas la loi, j'étais sexiste. Bon. Or, je suis sexiste, mais mon sexisme, c'est de vouloir plaire aux femmes. Bon. Donc, j'étais vraiment dans un... Bon. Et donc, voilà. Et l'idée, c'était de dire, non, c'est plus compliqué que ça. On peut ne pas voter de la loi sans être contre l'égalité homme-femme. Bon. Et c'était ça la contrainte la plus forte. Et c'est ça le génie du staff de la commission Stasi. Ça a été peu à peu, dans une commission qui était très pluraliste, qui était très pluraliste et à laquelle on a fait croire, ou peut-être que Chirac se réservait les deux possibilités, on a fait croire que le but de la commission, c'était de déboter en touche et d'élargir le problème, disons justement de quitter le problème strict des signes religieux à l'école pour élargir le problème justement à définir un peu largement le principe de laïcité. Et la commission Stasi a passé le plus clair de son temps à rédiger un rapport, et quand vous avez 20 personnes qui sont à bac plus 10 ou bac plus 15 et qui doivent rédiger un rapport commun, ben, tout le monde s'engueule pour des virgules et des bouts de phrases, de savoir si on va placer l'adjectif avant le nom ou le nom avant l'adjectif. Et puis évidemment, les lecteurs du rapport s'en indiffèrent royalement, mais on s'est battu sur des formulations. Vous pouvez imaginer facilement comment, en mettant 20 personnes intellectuelles, plus ou moins, pour faire un rapport, ils se battent. Si bien que la question des signes religieux, elle a été progressivement abordée, et abordée de front en dernière, à la dernière étape. Et alors que, de manière détournée plusieurs fois, etc., on avait insufflé l'idée que le véritable problème, c'était de défendre l'égalité homme-femme et que cette égalité était fondamentalement menacée par le foulard. Bon. Et donc, la contrainte idéologique est beaucoup plus forte que la contrainte du pouvoir politique. Bon. Et c'est ça le problème, c'est de se libérer soi-même, de se dire « non, c'est pas... si je vote la loi, je ne suis pas moins sexiste que si je ne la vote pas. » Et donc, le fait de voter ou pas voter la loi ne dira rien sur mon sexisme supposé ou non supposé. Bon. C'est ça, ça a été ça la difficulté psychologique, si vous voulez, à la fin de la commission Stasi. Beaucoup plus importante, à mon avis, la presse, tout le monde tapait sur la presse à la commission Stasi. Le seul regret que j'ai, c'est qu'on tapait sur la presse et dans le rapport, il n'y a rien contre la presse. C'est quand même bon, pourquoi il n'y a rien contre la presse ? Parce qu'on tapait sur la presse, mais on n'a pas fait d'enquête. Si on avait fait une enquête sur la manière dont la presse a construite médiatiquement les affaires de Foulard, il aurait été beaucoup plus difficile pour nous de présenter une loi, de proposer une loi. Bon, donc on n'a pas fait le boulot qu'a fait la commission Bouchard-Taylor face à la presse. Bon. Mais peu à peu, par un processus d'unification idéologique de 20 personnes qui travaillent ensemble presque tout le temps pendant 3 mois aussi, ça crée une sorte de communauté de gens qui s'apprécient, etc. Et pour ça, continuer à s'apprécier, il fallait tous d'accord que l'égalité homme-femme était menacée et que la seule manière de la maintenir et de la défendre était de voter la loi. C'est ça, pour moi, la contrainte la plus forte de la commission.